France Inter.
Bonjour, c'est Guillaume de Lille. Eh bien, je vais pas être très original non plus, mais un grand merci pour ces longues années de présence à l'antenne. Tu nous as fait hurler sur plein de sujets. Moi, pour ma part, j'ai découvert grâce à l'émission sur les Simpsons, c'était il y a 7 ans de mémoire. Et voilà, c'est très lié à ma vie du coup, parce que je me rappelle que je sortais de chez le psy, je me sentais bien, j'allais rejoindre la femme qui allait devenir ma future épouse, donc ça me, voilà, c'est plein de choses dans ma vie, donc voilà, je vous raconte ma life, mais Blockbuster fait partie de ma life, donc merci pour tout ça, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver ailleurs, sur d'autres zones, on ne sait pas, pour ça on fait confiance, merci, à très bientôt, et puis surtout ne changez pas ce générique qui me met les poils depuis 7 ans, bye.
Bonjour Frédéric, et bien écoute Daniel, encore mille fois triste d'apprendre que c'est la dernière saison. Moi qui ai passé toutes mes préparations de marathon avec toi, comment je vais faire? Je suis obligé d'arrêter de courir. Encore merci pour ces 9 années de bonheur. Ciao.
To be or not to be. Bah voilà, juste un petit message Frédéric pour te dire merci pour toutes ces belles années, à nous faire découvrir des trucs, à nous faire kiffer aussi, à entendre... parler des professionnels sur nos séries, nos jeux vidéo, nos BD préférés. Et merci pour Gilmore Girls, on l'a tombé, c'est vraiment trop bien. Et j'ai hâte d'écouter la nouvelle émission sur Full Metal Alchemist parce que c'est le seul manga que j'ai lu jusqu'au bout. Et franchement, ça vaut le coup. Allez, ciao!
Be or not to be. Not to be.
Il y a vraiment des trucs qui m'énervent dans le manga. Des habitudes éditoriales qui me sortent par les yeux et dont j'ai besoin de vous parler parce que je peux pas garder ça pour moi plus longtemps. J'ai essayé d'être fort, j'ai essayé d'être courageux, mais à la fin, il faut crever l'abcès. Je vais vous parler de Sakamoto Days, un manga de Yuto Suzuki que j'adore, attention il faut lire Sakamoto Days, et qui raconte l'histoire d'un assassin redoutable qui a pris sa retraite après être tombé amoureux et est devenu gérant de supérette de quartier. Il a désormais une petite fille, et la particularité de Taro Sakamoto, c'est qu'il a pris du poids. C'est un papa qui s'est empâté. C'était un des rares héros en surpoids du Weekly Shonen Jump. Yuto Suzuki étant littéralement une brute pour dessiner ses scènes d'action, la qualité de sa mise en scène n'a rien à envier aux meilleurs films du cinéma de Hong Kong. Et l'embonpoint de Sakamoto n'altère absolument en rien ses capacités surnaturelles d'ex-tueur qui a troqué ses flingues contre des trombones. C'est un régal de voir un personnage qui n'est pas aux normes des héros traditionnels corriger des méchants à coups d'édicteuses. Mais ça, voyez-vous, c'était avant. Car il faut savoir que quand un nouveau chapitre d'un manga sort au Japon, les lecteurs votent immédiatement pour dire si l'histoire leur a plu ou non, si un élément de l'intrigue ou même un personnage, alors souvent malheureusement c'est un personnage féminin, ça leur déplaît, et ben il y a une grosse pression des éditeurs pour corriger le tir les semaines d'après. Et ben là, depuis plusieurs mois, c'est tout simplement le physique du héros qui a changé. Taro Sakamoto a maigri sans aucune forme d'explication. Dans un délire grossophobe éditorial, le personnage principal a tout simplement changé de look. De look, pas de look. Un peu comme si on avait fait maigrir Obélix sous prétexte que des lecteurs de 12 ans le trouvent pas fit. Un marché qui ne propose aux lecteurs uniquement que ce qu'ils ont envie de lire est un marché qui ne produit malheureusement rien de nouveau. Et ce marché où on se conforme sans cesse à des enquêtes d'opinion et à des algorithmes de tendance, ça existe déjà et je crois que ça s'appelle de l'intelligence artificielle.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
La chimie est la science qui permet de comprendre, de décomposer et de recomposer la matière. Mais l'alchimie ne peut pas tout. Il est impossible de créer à partir du néant. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et la transmutation humaine constitue son tabou absolu. Nul ne peut enfreindre cet interdit.
Le manga Full Metal Alchemist s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires. En 2011, sa créatrice, la talentueuse Hiromu Arakawa, a reçu le prix Nouveau Talent Osamu Tezuka. Derrière l'histoire touchante de deux frères qui ont tenté de ressusciter leur mère en utilisant une formule d'alchimie interdite, Hiromu Arakawa tisse un récit complexe sur la guerre, la colonisation et les haines séculaires qui vont avec. Une œuvre qui continue d'être lue et appréciée longtemps après la fin de sa publication. Et pour revenir sur cette série culte, je suis entouré par Grégoire Hello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur éditorial des éditions Kurokawa, éditeur du manga Full Metal Alchemist en France.
Tout à fait.
Avec nous, de retour, Mathieu Pinon, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Et
à un moment donné, il faut partir du studio.
Écoutez, là je suis tellement bien, j'ai ma tente, mon réchaud,
mais c'est bien,
mes nouilles instantanées,
les gens commencent à se plaindre, hein, le cassoulet, tout ça, le matin, faut arrêter.
Ah oui, non, mais on peut pas ouvrir les fenêtres, c'est pas ma faute. Hein.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du magazine Otaku Manga et vous avez coécrit avec Philippe Bunel Un siècle d'animation japonaise aux éditions Inis.
Tout à fait.
Un collègue, Valentin Pacot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et vous écrivez sur les mangas, le Japon, les comics et la bande dessinée. Et vous avez officié toutes ces saisons avec nos collègues du MOVE.
C'est ça.
Dans Yata.
Et comme vous, on se fait indiquer la sortie.
Oh, on se fait raccompagner, gentiment.
Ça, c'est de l'alchimie.
Oh, tu en fais des saloperies.
Il faut faire des sacrifices quand on veut réaliser deux grandes choses. C'est le principe de l'échange équivalent.
Parce que tu oses appeler ça un échange équivalent ?
Sans cercle de transmutation.
Non, mais tu n'auras pas le temps de t'extasier là-dessus !
Le contenu dans ton bras aurait dû se mettre à bouillir.
Tu as complètement ruiné la manche de mon manteau.
Un automail. Il n'a pas besoin d'un cercle. Il est super doué techniquement. Il a un automail au bras droit. J'en déduis donc que tu es l'alchimiste full metal Edward Elric.
Un extrait du premier épisode de la série d'animation Full Metal Alchemist Brotherhood, seconde adaptation du manga d'Hiromu Arakawa diffusé entre 2009 et 2010. Mesdames et messieurs, c'est le moment de la minute du professeur Pinon. Bonjour, professeur Pinon.
Bonjour, monsieur Sigrist.
Et dites-nous, ça raconte quoi, Full Metal Alchemist?
Alors, Full Metal Alchemist, ça raconte un monde qui s'appelle le monde d'Amestris, dans lequel il y a ce qu'on appelle la possibilité de faire de l'alchimie. Il s'agit donc de pouvoir transmuter des éléments avec une règle très simple, qui est la règle de l'échange équivalent. Donc, on peut vraiment reprendre la devise de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut qu'il y ait la même chose au départ et à la fin, au niveau des ingrédients. Comme des briques de Lego, on peut cacher une voiture pour faire un château. Il y a deux interdits absolus dans ça, c'est faire de l'argent, parce que sinon ça ruine l'économie, et toucher à la vie, essayer de créer quelque chose de vivant. Et deux jeunes orphelins vont malheureusement s'efforcer de faire renaître leur mère, braver cet interdit, et ils vont en payer le prix cher, puisque suite à ça, ils vont se retrouver face à ce qu'on appelle la porte de vérité. L'un d'entre eux va perdre une jambe, et l'autre perd carrément son corps. Donc le deuxième des frères se sacrifie son bras pour pouvoir sauver l'âme de son petit frère, ce qui fait que Edward, le grand frère, se retrouve avec une prothèse métallique au niveau du bras et de la jambe, les automails qu'on a pu entendre dans l'extrait que vous avez si finement diffusé juste auparavant. Et le petit frère, Alphonse, lui, se retrouve scellé dans une gigantesque armure vide. Et donc, ces deux frères vont n'avoir de cesse de chercher à retrouver leur corps. Pour cela, il leur faut une pierre philosophale. Et pour obtenir cet artefact, ils vont s'engager dans l'armée, parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour eux d'obtenir le fruit de leur quête. Mais avec l'armée, ils vont découvrir plein de choses et ils vont se retrouver embarqués dans une aventure bien plus grande que leur quête initiatique d'origine.
Valentin Pacot, pourquoi après 24 ans au-delà de la parution, Full Metal Alchemist continue de fasciner les lecteurs, d'être une référence en la matière?
Alors pour plein de raisons. La première, c'est que c'est malheureusement encore très d'actualité sur toutes les thématiques à aborder, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, le néoludisme, ce rejet de ce mouvement technophobe, le transhumanisme, la peur de l'étranger, parce qu'il y a qui dit mouvement militaire, le fascisme. toutes ces thématiques qu'on aimerait qu'ils ne soient plus d'actualité sont très très présentes et très très bien abordées dans le manga.
Non, mais de toute façon, je pense que c'est plus d'actualité le fascisme, vu qu'on va supprimer lui-même.
Pardon, oui, c'est fini. Donc c'était presque d'actualité, donc c'est devenu un roman historique.
François Bayrou, il a dit que c'était ici.
Un manga historique, et surtout, Hiromu Arakawa est une artisane qui maîtrise ses outils à la perfection, ce qui fait que c'est un manga... J'aime bien dire Il y a deux types de bons mangas. Il y a ceux qu'on lit une fois où on a passé un très bon moment. Il y a ceux qu'on lit et qu'on a hâte de relire. Et ben FMA fait partie de ceux qu'on a hâte de relire, qu'on peut relire sans fin, plein de fois. Je crois que j'en suis à ma 10e lecture du titre et aucune lassitude, toujours des larmes, toujours du bonheur, toujours de la souffrance, toujours des interrogations. Et donc tout ça fait que c'est un très très bon manga qu'il faut acheter et lire et recommander.
Je plus sois. Grégoire Hello.
Oui.
Vous êtes donc l'heureux directeur éditorial des éditions Kurokawa. Comment vous avez découvert Fullmetal Alchemist ?
Alors, assez d'une manière assez parallèle, on va dire. Je suis obligé de raconter un peu ma vie et je m'en excuse.
Moi, je le fais tous les jours et ça ne me gêne absolument pas. Donc, allez-y, faites de même.
Très bien. Alors, moi, à la base, je viens du jeu vidéo. Je ne travaillais pas du tout dans l'édition. Et donc, Fullmetal Alchemist est édité par une maison d'édition qui n'est absolument pas spécialisée en manga, qui est la maison d'édition de jeux vidéo Square Enix. À l'époque, c'était Enix, hein, oui. Donc, qui était l'éditeur de jeux vidéo tels que Dragon Quest, par exemple. Et moi, venant du jeu vidéo, donc, j'étais très connecté avec cet éditeur. Et je dis, tiens, c'est marrant, ils ont fait ce manga. Ah bah tiens, c'est rigolo, ça cartonne. Ah bah tiens, ils en font un dessin animé. Ça n'arrive pas très souvent chez Square Enix. Habituellement, c'est plutôt les mangas du Jump, etc. Et donc, quand je quitte le monde du jeu vidéo pour rentrer dans celui de l'édition, je me dis, bah, il faut qu'on publie Fullmetal Alchemist, puisqu'il n'était pas forcément dans le radar de beaucoup de gens, puisque Square Enix n'était pas un éditeur japonais qui était surveillé par les éditeurs français ou même américains, italiens, espagnols de manga de l'époque. Et donc, fort de mes contacts du jeu vidéo, je suis passé par eux pour contacter les gens de l'édition manga chez Square Enix. Mm-hmm. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement. Alors, pas si rapidement que ça au début, parce que, évidemment, quand Fullmetal Alchemist devient un dessin animé et explose, d'un seul coup, tout le monde trouve leur numéro de téléphone. Et ces gens-là, qui n'avaient jamais rien vendu en dehors du Japon, se sont demandé, mais pourquoi est-ce que tous ces gens, d'un seul coup, s'intéressent à nous ? Et en plus, nous, on ne parle même pas anglais. Enfin, ils n'avaient même pas de section internationale pour gérer leurs droits, etc. Donc, et au final, on a discuté et on est tombé d'accord. C'est-à-dire que moi, j'allais lancer la maison Kurokawa avec Fullmetal Alchemist. Et eux étaient ravis de confier Fullmetal Alchemist à une maison d'édition qui n'avait personne d'autre parce qu'ils étaient sûrs qu'on allait bien s'occuper d'eux. Parce qu'on ne serait pas en concurrence avec les autres titres du catalogue.
Ah, donc c'est pour ça que vous avez eu l'exclusivité, parce qu'initialement...
C'est une des parties de la séduction, mais c'est vrai que ça a été un argument qui a été intéressant pour eux. C'est que, comme ça allait être notre titre de lancement, ils étaient sûrs et certains qu'on allait bien s'en occuper.
Et à ce stade des négociations, est-ce que l'autrice, Hiromu Arakawa, avait déjà un droit de regard ou, comme si souvent au Japon, ça se passait d'éditeur à éditeur?
Alors à l'époque, je l'ignorais. Je sais qu'aujourd'hui, elle s'en était pas vraiment occupée, parce que par exemple, elle ignorait que son manga est sorti deux fois aux États-Unis. D'abord chez un éditeur, puis chez un autre. Bon. Mais par contre, je sais qu'elle était très contente de ce qu'on a fait chez Kurokawa, et pour les mangas d'après, elle a demandé à tous ses éditeurs que tous ses mangas soient chez Kurokawa pour l'édition française. Et je pense qu'elle fait pareil dans certains autres pays où elle est contente. Mais faut dire aussi que c'est une pondeuse de best-sellers. C'est-à-dire que tous ses titres sont des cartons. Elle n'a pas un seul échec commercial à son actif. Donc du coup, elle peut aussi se permettre d'exiger ce genre de choses à ses éditeurs japonais.
Professeur Pinon.
Oui, monsieur Sigrist.
D'où vient Hiromu Arakawa ?
Alors, Hiromu Arakawa vient de Hokkaido, l'île qui est tout au nord du Japon. Pour l'anecdote, elle est née un 8 mai 1973. Je dis ça juste comme ça, je ne sais pas du tout sur le 8 mai. c'est une fille d'exploitant laitier. Donc, elle a grandi au milieu des vaches.
Qu'on voit dans le manga Silver Spoon.
Voilà, et surtout dans le merveilleux manga Noble Paysan, dont je recommande tellement la lecture. Elle a fait un lycée agricole, et puis le lycée agricole, ça lui a pas plu. Donc, elle est revenue travailler avec ses parents. Donc, pendant 7 ans, elle a travaillé au milieu des vaches, elle allait traire les vaches. Et puis, quand elle avait un peu de temps libre, elle faisait du dessin, elle faisait de la peinture, elle faisait du doujinshi. Et en 1999, donc, elle a...
Je vous rappelais ce qu'est le...
Ah, le doujinshi, c'est le fanzine. C'est donc c'est quelque chose qui est fait par des fans. On passe pas par un éditeur professionnel. Et elle va
si je puis me permettre.
Grégoire Hello.
Oui, pardon. En fait, elle est donc, c'est déjà une geek, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une geek de campagne.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'elle habite au milieu des champs, il n'y a rien ni personne. La seule chose qui la raccroche à l'univers geek de l'époque, donc l'univers geek des années 80, c'est les mangas qu'elle va trouver au supermarché, mais le supermarché, il faut faire 30 minutes de voiture pour y aller, ou carrément aller en centre-ville et là trouver des magazines de jeux vidéo. Et c'est notamment comme ça qu'elle va se faire connaître un petit peu de la scène, c'est que elle est fan de la guerre des trois royaumes. Voilà, c'est un récit historique chinois. Que certaines personnes connaissent.
Bah, qu'on retrouve dans le jeu Dynasty Warriors.
Entre autres, voilà, exactement, qui a été fait en film plusieurs fois, dont par John Woo. Donc c'est une période de la Chine, c'est à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, où voilà, la Chine est divisée en trois, et donc il va y avoir une espèce de... une espèce de guerre de réunification entre différentes tribus, différents clans chinois. Et c'est un aspect fondateur de la Chine d'aujourd'hui. Donc c'est un peu l'épopée fondatrice de la Chine. Et donc c'est un récit qui est enseigné évidemment aussi au Japon. Elle s'est prise d'amour pour ça. Et donc régulièrement, elle envoyait des dessins de ses généraux favoris et d'autres illustrations, parce qu'elle était aussi amatrice un peu de jeux vidéo et de toute cette pop culture, à un magazine de jeux vidéo qui s'appelait Gamest, un magazine spécialisé dans l'arcade, et c'est un magazine qui a révélé beaucoup de talents, puisque c'est là aussi, entre autres, qu'on retrouvera le dessinateur de One Punch Man. Bref, il y a beaucoup de dessinateurs professionnels de manga aujourd'hui qui envoyaient leurs dessins dans ce magazine-là. Parce que
Murata,
y avait...
si je ne m'abuse.
Oui, monsieur Yusuke Murata, exactement. Et donc ce magazine Gamest, c'était une mine d'or, parce que si les gens des années 80-90 ont gardé des magazines de l'époque, on se rend compte que dans le coin des lecteurs, il y avait tout un tas de gens qui sont aujourd'hui devenus professionnels, qui envoyaient leurs illustrations. C'est-à-dire qu'au courrier des lecteurs, les gens envoyaient les illustrations de leurs personnages de jeux vidéo préférés. Et donc, bref, elle commence
sa carrière.
Alors, Gamest, ça n'existe plus aujourd'hui. Il me semble que c'était chez Nihon Bugeisha, mais d'accord, je ne suis pas sûr.
C'était pas Enix.
Mais c'était... Non, ce n'était pas du tout. Enix, justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que Enix faisait des magazines de manga, faisait des mangas, mais ne faisait pas de magazines de jeux vidéo.
Voilà. Ce qui est paradoxal.
Ce qui est paradoxal, mais bon, c'est compliqué de vendre les collègues quand on est soi-même éditeur de jeux vidéo. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, Hiromu Arakawa a un lien très fort avec la pop culture, mais paradoxalement, elle est géographiquement très loin de tout. Et donc, elle va monter des clubs... à l'époque, il n'y a pas Internet, donc les gens s'envoient des lettres, ils s'envoient des dessins, etc. etc. Et elle se crée comme ça une espèce de galaxie de fans un peu à travers le Japon, ce qu'on appelait les penpals. Alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais les gens qui s'envoient des lettres... Les correspondants sans jamais s'être rencontrés. Et du coup, oui, comme l'a dit Mathieu, elle attend que son petit frère, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a trois grandes sœurs et un petit frère. Elle attend que le petit frère soit au lycée pour décider de quitter la famille et de partir à la capitale.
Et pour finir, par rapport à ce que disait Greg, comme il n'y avait pas grand-chose, elle a été aussi bien biberonnée avec des titres shoujo comme comique, comme Chimao Kochan, ou d'horreur comme Baptism, et également au Shonen Jump, Shonen Sunday, Shonen Magazine, donc les trois principaux. Et donc c'est en 99 qu'elle est repérée. Elle va descendre, puisqu'elle vient du Nord, à Tokyo, pour commencer à... Alors, elle trime, hein. Elle est assistante, mais elle prépare des bento la nuit, elle bosse en tant que gardien de musée, enfin, elle fait tous les petits jobs...
Elle fait du gardiennage, elle fait
tous les petits jobs possibles, imaginables. Ouais. Et puis, en 2001, si ma mémoire est bonne, commence Fullmetal Alchemist, et là, le succès.
On va continuer d'explorer tout ça et parler d'Hiromu Arakawa, mais tout de suite, on va écouter l'opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood, interprété par Yui. この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから。
Blockbuster sur France Inter.
Oh. 35 litres d'eau, 20 kg de carbone, 4 litres d'ammoniac, 1,5 kg de chaux, 800 g de phosphore, 250 g de sel, 100 de salpêtre, etc. etc. Tous ces éléments constituent la composition chimique du corps humain. Nous savons tout cela grâce aux avancées scientifiques, mais aucune transmutation humaine n'a encore été réussie à ce jour. Et vous pensez qu'une simple prière pourrait suffire pour l'accomplir?
Si vous avez la foi, toutes vos prières peuvent être exaucées.
Soit dit en passant, tous ces éléments sont en vente libre. N'importe quel gamin peut se les procurer sur un marché avec son argent de poche. Finalement, l'être humain ne vaut pas grand-chose.
C'est un véritable blasphème. Les hommes ne sont pas des objets, ils sont l'œuvre du Créateur et vous devriez craindre sa colère.
Les alchimistes sont des scientifiques. Ils ne croient ni au Créateur, ni à Dieu, ni à rien. Nous étudions les principes de l'univers et cherchons la vérité ultime. Quelle ironie quand j'y pense. Nous ne croyons pas en Dieu et pourtant nous sommes ceux qui y ressemblent le plus ici-bas.
Un extrait de la série animée de 2009, Full Metal Alchemist Brotherhood, et ils sont doublés en français par Arthur Pestel et Audrey Pic. Valentin Paco, quelle est la singularité d'Hiromu Arakawa? Est-ce que c'est son dessin, que personnellement j'adore, pour une raison très précise, c'est qu'elle est une des rares autrices qui dessine, et même, on peut même mettre les auteurs dedans, qui dessinent très bien les muscles. Et ça, j'aime. Mais il y a aussi ses scénarios. Qu'est-ce qui la caractérise selon vous?
Moi, je pense que c'est une excellente passeuse d'émotions, avant tout, et on revient sur son côté artisan qui maîtrise. Et effectivement, son script, il n'y a aucune erreur de script. On peut relire FMA dans tous les sens, on peut parler de foreshadowing ou pas, mais c'est d'une maîtrise incroyable, il n'y a aucune fausse note. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un deuxième animé, pour être plus proche du manga, parce que le premier est sorti très très vite.
Oui, elle s'est retrouvée dans la situation de George R. Martin, c'est-à-dire à avoir la son adaptation qui a rattrapé la publication du manga et qui l'a même doublé.
Et voilà, et donc avec une fin alternative... certains, enfin plus tristes dans le dénouement et beaucoup plus rapide, surtout beaucoup plus abrupte, ne permettant pas de traiter tous les personnages. Elle abandonne personne aussi. On peut s'attacher à un personnage secondaire. Il sera construit, en fait, il n'y a aucun... même un personnage au-delà de secondaire, donc un caractère qui apparaît dans un champ, elle le dit dans une interview qu'on peut apprécier dans la Bible publiée par l'édition Kurokawa, dès qu'elle dessine quelqu'un, elle ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'est-ce qu'il pense, où il va, qu'un passant dans la rue, elle va lui faire tout un background. Et moi, je trouve que cette force créative, cette alchimie créative fait que moi, elle m'emporte à chaque fois.
Et justement, vous parlez des différents personnages qui composent cette aventure. Là, je vais poser une question de fan, mais quel est votre personnage favori?
Moi, c'est Ed. C'est Ed de manière très très simple. Au début, à la fin, Al prend de l'importance. Sur la résolution, sur les derniers chapitres, Al grandit, mais Ed, en fait, il progresse, il change énormément. C'est par lui qu'on rentre. En fait, d'ailleurs, ces deux frères alchimistes qui, on l'a entendu, sont les plus proches des dieux. En fait, pas du tout. Hein. Ils se font balader, ils sont vecteurs de l'histoire. Ils sont presque pas acteur au final, et je trouve qu'il évolue énormément. Il passe de quelqu'un d'un peu prétentieux, trop sûr de lui, et après on comprend en fait qu'il veut cacher toutes ses faiblesses.
Oui, prétention. Il trompe pas grand monde en fait. On voit bien qu'il cache beaucoup de choses derrière son côté bravache.
Oui, mais il a des pouvoirs. Enfin, oui. Il fait partie, il est alchimiste d'état, donc ils sont très très rares à être aussi ceinture noire d'alchimie pour simplifier. Ils sont très très peu nombreux. C'est un génie, c'est le plus jeune à être diplômé alchimiste d'État.
Et puis il a de l'autorité aussi.
Il a
le fait d'avoir cette classe d'alchimiste d'État, ça lui ouvre toutes les portes. Enfin, on voit des adultes, même des hauts gradés, qui sont complètement pleins de déférence par rapport à lui dès qu'il arrive.
Oui, puis il est précédé par sa réputation. C'est le full metal alchimiste.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il est fort avec les faibles. Il est sympa avec les faibles et il est vraiment odieux avec tout ce qui est autorité, etc. Et ça en fait justement un sale gosse, en fait, parce qu'il bouscule un peu les autorités. Là où il va rencontrer, alors le personnage préféré des fans, si je puis me permettre, par contre, ça va être Roy Mustang,
oui,
qui est donc le personnage secondaire le plus important.
Oui,
en fait,
le brin ténébreux.
Voilà, le beau gosse, le oui, beau gosse, mais qui a aussi ses moments un peu ridicules, rigolos. Et lui qui, justement, a le même but que le héros, mais qui est beaucoup plus malin. qui navigue de manière politique, alors que l'autre, il voit une porte, il la défonce. Et derrière, on a l'impression que Roy Mustang est contre notre héros, alors qu'il lui dit non, mais c'est...
Que lui, il répare les pots cassés, justement.
Pourquoi tu pètes la porte? La fenêtre est ouverte, quoi. Et si tu fais ça, ouais, mais moi, je suis pas du genre à m'écraser devant les gens. Et tout. Bah, c'est dommage, parce que si tu t'écrasais devant les gens, t'aurais appris que gna gna gna, et t'aurais économisé une semaine. Voilà. Et c'est marrant d'avoir la double approche de ces deux personnages-là, et leurs interactions sont toujours délicieuses, que ce soit le tome 1 ou le tome 20.
Grégoire, hello, oui. Est-ce que vous êtes en train de nous révéler qui est votre personnage favori?
Non, pas du tout. Ah non, j'apprécie énormément Roy Mustang parce que justement il a une dynamique. Moi je m'intéresse beaucoup aussi dans le scénario, je m'intéresse beaucoup à la manière dont les personnages interagissent. Et c'est ça aussi qui est fort chez Hiromu Arakawa, c'est que les interactions de ces personnages sont multiples et inattendues. Des fois on a des personnages qui sont très archétypaux et il suffit de les voir interagir avec un autre personnage qui est complètement différent pour les voir sortir complètement du caractère qu'on leur connaît et d'avoir des personnages immondes ou très ténébreux, etc. Et puis d'un seul coup, ils vont voir un petit chat, ils vont être là, oh, il est petit minou, voilà. Et elle n'hésite pas à faire ça, à donner plusieurs facettes à ces personnages.
Et elle n'a pas peur de prendre un personnage qu'elle a introduit comme un méchant, comme un salaud, on peut même dire, et en faire un protagoniste qui finalement va être vecteur de changement ou d'autres choses.
Pardon. Vous pensez à Scar?
Pas que,
parce qu'il est plus une victime qu'un méchant.
À Grid a envie.
Oui, évidemment. Évidemment, oui. Oui. Mathieu Pinon, votre personnage favori?
Alors, pour moi,
on aura fait le tour de table.
Ça ne surprendra pas grand monde autour de cette table. C'est plutôt Hughes, le lieutenant Hughes, parce que c'est un papa gâteau. Mais outre ce fait auquel je me raccroche énormément, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on retient avant tout de lui, c'est une espèce de personnage comique vraiment récurrent pendant tout le truc. Enfin, oh, qu'est-ce qu'il est rigolo toujours à montrer des photos de sa fille, etc., etc. Mais derrière ça, c'est quelqu'un qui est très malin, qui va être le premier à lever le gros lièvre de l'histoire et à faire vraiment avancer les choses, et par rapport à ce qui va lui arriver, va complètement changer la donne et apporter une gravité subite à l'histoire. D'ailleurs, ça sera le seul moment où Mustang, justement, va apporter une dimension très humaine, Et donc, en quelques tomes, ce personnage a de nombreuses facettes, mais surtout transforme complètement l'histoire, alors que beaucoup n'y voyaient qu'un personnage un petit peu rigolo qu'on voyait de temps en temps. Donc, j'aime beaucoup ce que Hiromu Arakawa a fait avec ce personnage.
Ça, c'est un de ses archétypes classiques, hein, de l'idiot savant.
Oui.
C'est-à-dire le type qui est là, qui est rigolo, on le voit dans l'œuvre qu'elle réalise actuellement, Tsugai. Voilà, où on a justement le comment dire, alors je ne veux pas trop en révéler non plus, mais on a un personnage qui débarque en claquette, un grand classique, avec un t-shirt d'un dessin animé complètement idiot. Et en fait, c'est un personnage surpuissant dès qu'il se met au truc et il connaît plein de choses. Il révèle plein de secrets de l'histoire. Alors, je ne vous dis pas qui c'est parce qu'il apparaît assez tard dans
quelque part, il rappelle un peu Columbo. Voilà, Columbo qui fait « Ah, ma femme est toujours, il fait regarder ma fille, et derrière...
» Et derrière, hop, il a tissé sa toile.
Voilà.
On est ensemble pour parler du manga Full Metal Alchemist, et l'artiste qu'on va entendre est elle aussi une grande passionnée de manga, Lucen the Yakuza, qui interprète Good to Know.
Ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée, la folie des non-dits et des paroles en l'air, la manie de mentir pour se jeter la pierre. On se força et poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir. Le douche de stress dans ma tête, ça m'affecte comme un tourbillon, un tsunami, une tempête. La peine me transperce jusqu'à mon squelette. Oh Lord, I've never seen that before. You've blamed it on me. I've never seen that before. You're so selfish. Was it worth it? There's nothing to hold on to. I hope that it all works out for you. You've blamed it on me. Oh, good to know. Blame it on me. Never seen that before. You're so selfish. Was it worth it?
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Ça suffit! Ôte tes sales pattes de lui, Scar, c'est terminé! Je t'arrête pour le meurtre de plusieurs alchimistes d'État. Prends-toi! Sinon,
les alchimistes donnent à la matière les formes les plus huiteuses. Ce faisant, ils offensent Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est pourquoi il m'a choisi et envoyé ici pour exécuter son châtiment. Et j'élimine tous ceux qui veulent me barrer la route.
Très intéressant. Laissez-moi faire.
Mais, colonel Mustang!
À la bonne heure, Mustang, le colonel de flammes. Dire que tu es venu chercher ton châtiment. Décidément, c'est vraiment un bon jour!
Alors comme ça, tu me connais et tu oses me défier, pauvre crétin! Non mais ça va pas la tête, qu'est-ce qui vous prend?
Reculez, colonel, et soyez plus vigilants, vous êtes impuissants par temps de pluie.
C'est vrai qu'avec un temps pareil, ça va être difficile de générer des étincelles.
Tu ne peux donc pas utiliser tes flammes alchimistes d'État, voilà qui est parfait. Maintenant, vous allez tous mourir, personne ne m'empêchera d'accomplir ma mission. Désolé de te l'apprendre, mais je crois que si... Quoi? Un autre?
Tu as pu esquiver mon coup? Pas mal! Pas mal du tout! Alors, comme ça, tu as l'intention de tous nous détruire? Laisse-moi te proposer une chose! Si tu commences déjà par moi, je suis Alex Louis Armstrong, l'alchimiste au bras puissant!
Vous venez d'entendre un nouvel extrait de Full Metal Alchemist avec le colonel Roy Mustang, doublé en français par Martial Leminou, et Scar, doublé par Antoine Thomé, le commandant Alex Louis Armstrong, mon préféré, et doublé en français par Benoît Allemann, disparu le 5 janvier 2025 à l'âge de 82 ans. Il était aussi la voix de Baloo et de Morgan Freeman. Alors, on a entendu Scar dans cet extrait, à la figure de Scar, un personnage de Full Metal Alchemist, qui convoque l'idée très grave de génocide, mais aussi celle du terrorisme en représailles, Valentin Paco.
Et de la vengeance et du cycle éternel sans fin, il faut arrêter avec ça, il faut expier, il faut payer. On revient au principe d'équivalence. Si tu détruis tout à un moment, bah, va falloir créer autre chose. Et c'est un personnage très très fort qui... je ne sais pas si dès le départ était prévu pour aller aussi loin dans l'histoire, mais en tout cas qui prend une envergure incroyable et presque une place sur le podium des protagonistes, parce que par lui va se passer énormément de choses. C'est un perturbateur.
Grégoire, pardon. Oui, effectivement, c'est un personnage qui déclenche énormément de choses, mais c'est en même temps un personnage qui est très important dans l'histoire, dans la mesure où, en éliminant des personnages clés du système politique en place, il va révéler le complot. C'est-à-dire que on va se rendre compte qu'en fait,
complot.
Ouais, il y a un complot. En fait, le système est pourri et les élites nous mentent. Je veux pas trop en révéler, mais effectivement, la tête, voilà, c'est comme le poisson, hein, le système pourri par la tête. Et c'est en fait un peu grâce à Scar qu'on va découvrir qu'effectivement, à la tête du pays, il y a des gens pas ouf, comme on dit. Et alors, je peux pas trop en révéler, parce que moi, mon rôle d'éditeur, c'est aussi de vendre des bouquins. Hein, donc, c'est aussi envie de donner envie aux gens de le lire ou de le relire. Mais
après, de toute façon, je vais simplifier l'argument marketing pour lire Full Metal Alchemist. Si vous avez envie d'être heureux et de découvrir une grande œuvre, lisez-le. Si vous avez envie d'être malheureux et d'avoir des furoncles, ne le lisez pas.
C'est pas mal, je vais en parler au service marketing. Mais plus simplement, Scar est intéressant parce qu'effectivement, il arrive comme un gros méchant charismatique et derrière, on se rend compte qu'il a un passé non seulement extrêmement tragique, mais aussi une justification pour tous les actes horribles qu'il commet parce que, voilà, on trouve que c'est un super méchant pendant les 15 premiers tomes. Et en fait, le tome 16 de Fullmetal Alchemist, c'est un tome complet qui nous explique ce qui s'est passé avant et donc une espèce de grande guerre d'invasion du pays voisin dans le et on va découvrir que la famille d'Oscar, il lui arrivait des choses pas terribles.
Et ce qui était important, c'est de se dire que ce tome 16, en fait, c'était un des premiers moments, des premiers vecteurs que l'autrice avait imaginé quand elle s'est lancée dans ce manga. Elle voulait raconter une grande guerre et l'histoire. Et sauf que quand on est sur un mensuel et qu'on en prépublication, c'est difficile de raconter une guerre. On n'a pas le temps, on peut pas tout faire. Donc elle a commencé par poser tout le décor et elle s'est focalisée sur un passage de cette guerre qui est portée par le passé de Scar, le pourquoi il est devenu comme ça et le lien qu'il a avec les autres protagonistes, notamment les alchimistes qui était envoyé au front, hein, parce qu'on est sur un régime totalitaire militaire complètement fasciste et expansionniste.
Oui, parce qu'on nous présente les alchimistes comme des espèces de magiciens qui peuvent réparer une chaise cassée ou des choses comme ça, mais en fait les alchimistes étaient utilisés comme des armes humaines pendant la guerre, et on va découvrir qu'il y a eu tout un tas de saletés, comme des expérimentations, parce qu'on se rend compte qu'il y a dans l'ombre, il y a des gens qui veulent faire des expériences alchimiques avec des êtres humains, ce qui est interdit, hein, on le rappelle, y a beaucoup de gens qui vont sortir de cette guerre cassés.
Mm-hmm. Notamment Mustang.
Notamment Mustang.
Qui s'est retrouvé bien malgré lui, qui a dû aller au front malgré lui. Et ce qui est super intéressant, je trouve, avec le personnage de Scar, c'est que on parle littéralement de génocide sur cette guerre d'invasion. Et Scar représente une thématique qui va vraiment parcourir tout le manga, comme l'a si bien dit Valentin, c'est le massacre des civils et des innocents, parce que on va notamment apprendre que pour faire des pierres philosophales, il faut des âmes humaines pour pouvoir les créer. Et y a un moment où on ne parle pas de dizaines ou de centaines d'humains, mais vraiment on parle d'une échelle quasiment d'un pays entier qui est visé, j'en dirais pas plus. Et l'autre chose qui est très très intéressante par rapport à tout cet arc du génocide, c'est qu'on en connaît les séquelles, on les voit. Quelque part, ça rappelle un petit peu Cowboy Bebop dont on a parlé il y a quelques jours. Écoutez le replay si vous avez raté. Au sens où, à travers les yeux...
Donc, vous en êtes arrivé à un point où vous faites des références à vous-même.
Ah, je fais référence à vos émissions.
Mais il est malin quand même. Hein.
C'est là qu'on voit qu'à travers les yeux des frères Elric, on découvre tout le monde. On découvre qu'il y a eu ce génocide. On en découvre les conséquences sur des personnes comme Scar ou comme Mustang. Et à toute fin du manga, on connaît l'origine véritable de ce génocide. Et honnêtement, c'est pour ça que Metal Alchemist est passionnant, c'est qu'une fois qu'on connaît ça, qu'on a toutes les clés en main, on n'a qu'une envie, c'est relire à nouveau l'œuvre avec ce nouveau jour, et ça prend une dimension encore supplémentaire.
Et d'ailleurs, Mathieu Pinon, justement, est-ce que Full Metal Alchemist, pour faire donner une image, est-ce que Full Metal Alchemist a marché pour que l'attaque des Titans puisse courir? Parce que je trouve que... moi, je sais que quand j'ai découvert l'attaque des Titans, que j'ai adoré, mais il y avait une partie de moi qui était là quand même. Ah, mais ça, je l'ai quand même déjà vu dans Full Metal Alchemist.
Je pense que ce sont des cousins éloignés, mais on ne peut pas faire vraiment une filiation très rapprochée. Il y a des thèmes qui vont être là. Il y a des thèmes d'invasion, de volonté de génocide. Il y a le thème du fascisme qui est très présent. Mais ils sont beaucoup plus incarnés par des personnages dans l'Attaque des Titans, qui vont un petit peu vraiment incarner à chaque fois une de ces thématiques. Là où ça va toucher tout le monde dans Fullmetal Alchemist, ça va être beaucoup plus... c'est beaucoup plus global, là où l'Attaque des Titans est très, très frontale. Donc, mais c'est mon opinion, peut-être que Greg...
Après, moi, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que Fullmetal Alchemist est un récit qui est beaucoup plus maîtrisé en termes de rythme et de narration. Et il n'y a pas ce ventre mou au milieu de la série où on ne sait pas trop où l'auteur, est-ce qu'il change d'avis en cours de route. Il y a une vraie grande ligne directrice dans Fullmetal Alchemist. Et c'est aussi pour ça, je pense, que l'une des qualités de la série, c'est qu'elle n'est pas très longue, c'est qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire de manière très dense et de manière très explicite à la fois.
Ce qui est fou dans la production de Fullmetal Alchemist, donc c'est une série qui a duré 9 ans, et pendant ces 9 ans, l'autrice a pris zéro pause, même quand elle était enceinte, c'est-à-dire qu'elle a accouché, elle a continué son
manga. Et en faisant des trucs en parallèle.
C'est assez dingue, et ça montre cette... Alors, je vais regarder que le côté positif.
Oui.
Ça montre cet engouement, cette passion pour son histoire qu'elle voulait absolument continuer et ne pas abandonner. Ces personnages, qu'elle en discute aussi à la fin du manga, où elle fait une petite postface, un petit bonus supplémentaire. Elle dit « Je voulais en laisser aucun sur la route. Je voulais donner une résolution à chacun. » Il n'y a aucune porte qui reste ouverte à la fin de Fullmetal Alchemist. On en a pour tout le monde. Sur plein de mangas, on se dit « Mais oui, mais et machin ?» Et ce petit sous-scénario, qu'est-ce qui se passe ? Là, tous les cailloux sont retournés, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et vraiment, tout est traité.
On va attaquer la quatrième partie de cette émission consacrée à Fullmetal Alchemist après avoir écouté Spells par Freakslug.
So good.
Blockbuster sur France Inter.
Valentin Paco, on parlait pendant la chanson de la qualité du dessin et de l'aspect iconique de Edouard et de son frère Alphonse, on a échappé à une version avec un écureuil.
Oui, ça. En fait, d'ailleurs, au tout départ, c'était pas son frère, c'était son père qui était là, et c'était un écureuil. Sauf que en imaginant les scènes de combat, ce que ça allait donner, bah, c'était pas très très fort. Donc, on a failli avoir Full Metal Spirou. Ça aurait été très rigolo. Ça aurait été peut-être chez un autre éditeur, du coup.
Là, du coup.
Être exact, Full Metal Spip.
Full Metal Spip, oui, à voir. Ça dépend si on veut sur le héros et son sidekick ou pas. Mais ça a été très rigolo. Et donc, l'autrice, Hiromu Arakawa, consciente du besoin de lisibilité et d'approche, de compréhension de son manga très rapidement, parce qu'au Japon, le système de prépublication fait qu'on est jugé très très vite. Mmh. Elle avait l'ambition de raconter une vraie histoire. Alors, comme on l'a dit, hein, le cœur de son histoire arrive au 16e tome. Donc, on est sur du long trend. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux utiliser comme méthode? Et donc l'armure qui se rapproche de certains personnages des armures dans Dragon Quest, elle est hyper iconique, hyper compréhensible. Tous les lecteurs japonais, en tout cas, tous les fans de jeux vidéo ont les codes pour comprendre en une seconde ce que représente le personnage de Ed dans son armure. Pareil pour Ed avec son côté, sa natte, son côté rouge, très dynamique, très petit, très vif, très le petit pimousse. Et pareil pour l'alchimie. Elle s'est posé la question, qu'est-ce que j'utilise comme vecteur de pouvoir? Mais si elle...
Mais d'ailleurs, quand j'y pense, là, en vous écoutant, c'est vrai que Ed a des faux airs de Vincent aussi dans Final Fantasy VII. Hein.
Oui, alors il y a ça, il y a aussi... elle s'en cache pas du tout, hein, elle est fan de Trigun aussi.
Ah,
donc ça expliquerait peut-être l'influence du... Voilà, donc ça expliquerait peut-être aussi le manteau rouge.
D'accord. Donc les rêves sont là.
Oui, mais si on regarde son manga, d'ailleurs, il y a plein de cases où il y a des hommages et des clins d'œil à des films, à des séries.
À plein. De toute façon,
c'est une œuvre qui est bourrée de clins d'œil.
Elle se réclame énormément aussi de Rumiko Takahashi, donc l'autrice de La Mure, Ranma, etc. Et d'ailleurs, dès qu'elles peuvent, toutes les deux, elles font des interviews croisées parce que l'une est admirative de... Enfin, se réclame de l'héritage de l'autre, quoi. Et c'est vrai qu'on retrouve dans certaines... Enfin, je pense que tous les contrepoints comiques qui font aussi le succès des œuvres d'Hiromu Arakawa sont hérités des mangas de Rumiko Takahashi, où les personnages, de par leurs interactions complètement inhabituelles, un peu zinzin, cassent un peu le drame ambiant. Parce que la grande différence, c'est que contrairement à Rumiko Takahashi, les œuvres de, on va dire, en tout cas Full Metal Alchemist, c'était beaucoup plus dramatique.
Et puis surtout, c'est vraiment une véritable œuvre au long cours, là où des titres comme Ranma sont plus épisodiques, avec un côté beaucoup plus comique. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais juste revenir parce que le temps file, et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui s'en rappellent, parce que en fait, Full Metal Alchemist, pour moi, par rapport au public français, c'est vraiment la dernière œuvre mythique qu'on a connue par l'animation avant le manga, et ça s'est joué à très très peu, puisque de mémoire, c'est en février 2005 que l'anime est arrivé sur la case de Canal+, Yannick, parti trop tôt, et c'est sorti en septembre.
C'est ça, tout à fait.
Chez Kurokawa.
On avait programmé pour que le manga sorte 10 jours après le dernier épisode de la série télé.
C'était très malin. Et donc, il y en a plein qui ont vraiment pris ça en pleine face. Et je crois que c'est vraiment un des derniers titres où on a eu l'anime. Enfin, on l'a connu par le biais de l'anime avant de le connaître par le biais du manga. Et ensuite, le marché français s'est vraiment calqué sur le marché japonais avec tout d'abord le manga comme matériau premier, puis les adaptations animées qui arrivaient ensuite.
Bah, si tu comptes pas les œuvres pour enfants du style Chocolat et Vanilla ou Inazuma Eleven, ça reste le dernier grand dessin animé que les gens ont connu par la télé massivement diffusée, avant ensuite de le découvrir.
Et en plus, ça a été le premier véritable succès international du studio Bones, qui s'était créé sur les cendres de Cowboy Bebop, décidément. Comme
on y revient toujours. Et alors... évidemment, Full Metal Alchemist est une œuvre singulière qu'il faut lire et relire si jamais on n'a pas eu la chance encore de le faire. Mais elle a enchaîné avec des histoires très différentes et quand même toutes de qualité. J'ai cité Silver Spoon, mais il y a aussi La Légende d'Arslan qui continue d'être publiée, qui est l'adaptation d'un roman que j'adore et qui est vraiment qualitative. Tsugai. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue d'avoir une autrice qui a été pertinente il y a 24 ans, qui continue de l'être en 2025, et qui n'est pas souvent, aussi souvent qu'elle le devrait, citée parmi les grands noms du manga. Comment on explique ça ?
Alors, au Japon, elle est citée. Hein. Au Japon, il y a zéro doute, elle est citée parmi les grands noms du manga. Comme le disait Greg, c'est, si Tom Cruise est la star d'Hollywood parce qu'il n'y a aucun raté dans sa carrière, en termes de vente, Hiromu Arakawa, toutes ses séries sont millionnaires. Je crois que la plus petite d'entre elles, on doit être à plus de 100 000 exemplaires au tome au Japon.
Oui, c'est Hirotel.
Mais qui était très bien aussi. Hein.
Oui, alors, en plus, Hirotel, c'était un délire d'ado. C'est-à-dire qu'elle a refait professionnellement un projet de fanzine qu'elle avait avec ses copines.
Non, elle est hyper respectée. Il n'y a qu'à regarder tous les noms qui se sont portés volontaires pour l'hommage à l'anniversaire, à l'édition anniversaire des 25 ans de Full Metal Alchemist. Oui. Tout le monde a voulu en être. En France, elle est peut-être un peu moins citée parce qu'on a tendance à, pour beaucoup de cas, à citer une œuvre plus qu'un auteur ou une autrice.
Il y a de ça, et puis il y a aussi le fait qu'elle ne fait que des séries entre guillemets courtes. C'est-à-dire que Full Metal Alchemist, qui est sa série la plus longue, elle ne fait que 27 tomes. Donc, c'est pas des séries de 40, 50, 60 tomes. Donc,
ou des fois 100 tomes.
Voilà. Ça fait un peu combat de vieux, mais il est vrai qu'il y a aussi des gens qui citent les mangas plus par effet de manche, de se dire, ah ben, moi, je lis le truc du moment, etc. Et c'est vrai que Full Metal Alchemist est plutôt un grand classique. Peut-être que Tsugai, qui maintenant a été annoncé en dessin animé, va se mettre sur le devant de la scène.
Et ce qui est génial avec Tsugai, c'est que alors que Hiromu Arakawa n'a plus rien à prouver, ça faisait des années que je n'avais pas vu un manga aussi, je ne vais pas dire provocateur ni innovant, mais le premier tome, quasiment à chaque fin de chapitre, elle réinvente le principe de feuilleton parce qu'elle redistribue complètement les cartes. Et c'est vraiment, j'imagine, au Japon, ceux qui l'ont lu en prépublication, à chaque fois qu'ils arrivaient à la fin, c'est pas possible, il me faut le prochain tome, il me faut le prochain numéro, il me faut le prochain chapitre, parce qu'elle a rebattu complètement les cartes. Et scénaristiquement parlant, c'est une prouesse de Tsugai.
Très très solide.
Quand Tom autour de cette table avait dit que c'était 24 heures en manga.
Ah oui, c'est un argument. Bah, c'est vrai que moi j'ai discuté un peu avec elle de Tsugai, et elle m'avait dit justement qu'elle voulait faire le contraire de Full Metal Alchemist avec Tsugai. C'est-à-dire que Full Metal Alchemist, t'es surpris, mais tu suis quand même une quête où tu sais à peu près quels sont les enjeux, etc. Et Tsugai, elle voulait en fait que les lecteurs soient dans la peau du héros. Je pitche rapidement, hein. c'est un héros qui vit dans un village reclus, qui a l'impression, alors il a, toute sa vie il a vécu au Moyen-Âge, et puis un jour, hop, des forces spéciales GIGN débarquent et tuent un peu tout le monde, donc lui il est avec ses flèches, il s'en sort comme il peut, et donc il va lui arriver plein de péripéties, il découvre qu'en fait il est au 21e siècle. Et donc du coup elle voulait que le lecteur soit dans la peau du héros, et découvre les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il est noyé d'informations, à ce coup quoi, des trucs qui avancent sans chevaux, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi cette machine
des
me parle?
Des oiseaux de métal.
Oui, voilà, il y a une machine qui parle, il y a des trucs, voilà. Et donc elle voulait que le héros soit vraiment le vecteur du lecteur et se fasse bombarder d'informations et soit perdu à chaque chapitre.
J'aimerais juste dire un petit truc, parce que je vois qu'on arrive vraiment vers la fin. Pour les lecteurs de Fullmetal Alchemist, si vous possédez la première édition en tome de poche chez Kurokawa, pensez bien, si vous voulez le relire, à enlever la jaquette et regardez les couvertures et regardez bien le dos de chaque manga, parce que vous verrez que sur le dos, il y a des petits personnages qui sont dessinés, et c'est un trip que s'est fait à Arakawa. C'est-à-dire que si vous voulez savoir qui meurt dans le tome, vous avez juste à enlever la jaquette, regarder le dos, et vous voyez les petits personnages qui vont mourir. Et si vous avez la perfecte édition, qui est également magnifique, pensez à enlever la jaquette pour profiter de magnifiques croquis sur les couvertures. Voilà, ce serait vraiment dommage de passer à côté.
Ouais, ça serait plein de trucs. Ça serait dommage, mais en tout cas, vous en avez bien parlé. Merci Grégoire Hello, merci Mathieu Pinon, merci Valentin Paco d'avoir évoqué Full Metal Alchemist.
Merci pour l'invitation.
Tsuga et la légende d'Arslan va vraiment avec cette autrice, vous avez de quoi faire. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin. Elle a été préparée par Lisiane Arbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest. Aujourd'hui à la technique, il y avait le grand Fabrice Desmaz et au mixage, Corentin Rouchy. Comme toujours pour les messages, c'est 01 56 40 30 20. Vous pouvez continuer à faire mon éloge funéraire jusqu'à la fin du mois d'août. Ou vous pouvez parler avec moi directement sur Instagram, Frédéric Sigrist, et non pas Fred Sigrist, parce qu'il y a un autre Fred Sigrist, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, Frédéric Sigrist, si vous voulez me parler. Et on se retrouve demain pour parler de ce qui est arrivé de mieux dans la galaxie Star Wars depuis fort, fort longtemps, la série Andor.
Tu me traites de nabo là ? Non !
Quand je pense que celui qu'on surnomme l'alchimiste Full Metal n'est en fait qu'un gamin, ça me rend dingue !
Non, je ne suis pas un nabo ! Oui.
Non mais les doigts. qu'il parle de Tatai, là.